Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons parler des mythes qui entourent le suicide. Bon épisode! Au podcast aujourd'hui, on va parler des mythes entourant le suicide et je pense qu'on est la meilleure personne pour le faire, c'est Madeleine Huat, elle est directrice clinique chez Suicide Action Montréal. Salut Madeleine.
Bonjour Joannie, ça va bien?
Ça va très bien, bienvenue au podcast.
Ben merci, c'est un plaisir d'être ici.
Je trouve que là on va aborder un sujet vraiment important quand on parle de suicide, de prévention du suicide. Il y en a beaucoup, je pense encore, des mythes qui entourent le suicide. Est-ce que ces mythes-là, pour toi, c'est un danger de désinformation en général, tu penses?
Oui, tout à fait, parce que ça donne des fausses impressions à l'égard du suicide. On a plein d'idées qui circulent et puis c'est pas tout à fait le cas dans la réalité. C'est pas nécessairement comme ça que ça se passe dans la tête d'une personne. Donc oui, je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation à cet effet-là. Il y a beaucoup de mythes qui courent, puis quand on les déconstruit, on réalise que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Un que j'ai en tête, c'est que le suicide va toujours se produire sans avertissement. La très grande majorité des gens vont donner des indices. Okay. Vont lancer des petits messages pour annoncer le fait qu'ils ont l'intention de faire un passage à l'acte, que sont rendus là dans leur cheminement. C'est juste que des fois, c'est difficile à déceler un petit peu ces indices-là ou ces petits messages-là qu'ils nous envoient. Donc, c'est là où des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à percevoir. Mais oui, il y a toujours des indices qui sont donnés à l'avance.
Donc, quand ça semble arriver de nulle part, comme tu dis, qu'on est vraiment surpris, qu'on comprend rien, c'est peut-être juste parce que ces petits signes-là n'étaient pas clairs?
Exactement. Ils pas clair, c'est pas facile à voir ou des fois on n'a pas le regard aiguisé pour les voir non plus. Hein. Quand on n'est pas expert dans le domaine, mm-hmm. Mais c'est certain qu'on va pas nécessairement les voir aussi facilement. Puis même si on est expert dans le domaine, ça nous arrive aussi qu'il y a des fois quelque chose qui va nous échapper. On peut pas lire dans les pensées du monde.
Mis à part ce mythe-là qu'on entend souvent justement, mm-hmm. que ça vient souvent de nulle part, que c'est inattendu, est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête des mythes concernant le suicide?
Bien sûr, il y en a souvent qui pensent que le suicide, c'est une maladie, que c'est quelque chose qui est contagieux, qui peut s'attraper. Si les deux, on touche à la même poignée de porte.
On entend encore ça.
On entend encore ça, comme quoi, c'est ça, c'est une maladie. Mais c'est pas vrai, c'est pas une maladie du tout. C'est un comportement qui traduit vraiment la souffrance de quelqu'un. Ils n'ont plus d'autres moyens à leur disposition, ils ne sont plus capables de voir d'autres pistes de solutions. Ils sont rendus à un point où ils se disent « Ah, le suicide, c'est tout ce qui me reste. » C'est tout ce que j'ai pour m'en sortir. Mais ce n'est pas du tout une maladie, c'est vraiment un comportement qui traduit une souffrance que la personne est en train de vivre, une souffrance qui est intolérable. Donc ça, c'est vraiment un autre mythe qui me vient en tête à ce niveau-là.
Mythe ou réalité, est-ce que c'est vrai que les personnes qui sont automatiquement en crise suicidaire veulent à tout coup absolument mourir? Est-ce que ça vient ensemble?
Non, pas nécessairement. En fait, merci d'avoir posé la question. Ça aussi, c'est un autre mythe.
Un autre mythe?
Ben oui. Alors, c'est pas parce que nécessairement la personne a vu mourir, c'est qu'elle veut arrêter de souffrir.
Okay.
Elle est ambivalente par rapport à ce qu'elle vit. Elle se sent dépassée. Elle se sent dans une impasse.
Il n'y a plus de solution.
Exactement. Il n'y a plus de solution. C'est un petit peu comme la personne suicidaire, c'est comme si elle avait une boîte de carton sur la tête.
OK.
Elle ne voit plus rien autour d'elle, c'est tout noir, elle est vraiment au pied contre le mur, elle ne voit plus rien. Alors c'est là où nous, de l'extérieur, on la regarde avec sa boîte sur la tête, on se dit « ben voyons donc, pourquoi tu ne fais pas juste t'en sortir? Pourquoi tu ne fais pas juste te relever? Sors-toi de là, c'est quoi cette idée-là? » La personne, elle ne voit rien d'autre. Et c'est là, nous, notre rôle comme intervenant, d'amener la personne à enlever la boîte de sa tête et réaliser qu'il y a autre chose qui se passe.
Puis, excuse-moi, est-ce que la formulation que tu viens d'utiliser, justement, Est-ce que pour quelqu'un qui a des idées noires, des idées suicidaires, justement, ça se peut-tu que ça puisse empirer même? De dire, voyons, pourquoi tu t'en sors pas? Pourquoi tu... C'est un peu accusateur d'un sens. Est-ce que tu penses que pour une personne en détresse, ça peut rajouter une certaine panique?
Bien, de se faire dire des choses comme ça, oui. En effet, la personne peut se dire, bien, voyons donc, c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis pas capable de m'en sortir? Bien, dans le fond, ça vient confirmer mon choix. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec notre choix de mots. Qu'est-ce qu'on va dire à des personnes? Quand quelqu'un a des idées suicidaires et elle accepte de nous en parler, c'est un privilège de pouvoir l'écouter et de l'entendre. Et c'est ça aussi ce qu'on devrait faire avec ces personnes-là, c'est de les écouter pour comprendre et non les écouter pour répondre. On n'est pas là pour leur donner des conseils ou leur dire comment ils auraient dû faire les choses ou quoi que ce soit. C'est juste d'être là et dire « Regarde, tu passes à travers une passe difficile, on va s'asseoir ensemble, on va en parler, je suis là pour toi, je suis là pour t'épauler. » Qu'est-ce que je peux faire pour te donner un petit coup de main, pour t'aider à t'en sortir? C'est quoi le plus petit pas qu'on peut prendre pour t'aider à aller un tout petit peu mieux? Vraiment, y aller un micro-pas à la fois. On ne veut pas non plus mettre ça trop gros pour la personne. Là.
Pour ajouter un stress, une anxiété, exactement, une pression aussi,
exactement.
J'imagine.
C'est comme si je te disais du jour au lendemain, mais tu vas aller monter le Mont Everest. Je pense que tu capoterais. Tu dirais, mais non, je ne suis pas prête, je n'ai pas les outils qu'il me faut.
J'ai pas le cardio.
Ben, c'est la même chose avec quelqu'un qui souffre énormément, qui se sent dans une impasse, on ne va pas lui dire du jour au lendemain, ben va monter le Mont Everest, sinon on va y aller un petit pas à la fois, on va commencer par enlever la boîte de la tête et voir qu'est-ce qui se passe. Une autre image que j'ai souvent en tête aussi, je ne sais pas si tu as déjà vu dans les films, souvent on a le petit ange et le petit démon sur les épaules, c'est la même chose avec les idées suicidaires. On a un petit peu une petite voix qui est la voix qui dit « Ah, oh, tu sais, ce serait tellement plus simple, enlève-toi la vie, tous tes problèmes vont être réglés. » Puis cette petite voix-là, elle parle très, très fort. Mm-hmm. Mais de l'autre côté, il y a une petite voix qui veut vivre aussi.
Elle chuchote,
exactement,
par exemple.
Exactement, elle chuchote. Alors nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller écouter cette voix-là et d'enlever le microphone.
Oui, c'est ça, enlever, c'est comme toi, tu chutes, là.
Exactement, tais-toi, non, t'as pas d'affaires ici.
On va parler à l'autre.
On va aller exactement, on va demander à l'autre de parler. Donc, c'est ça ce qu'on veut faire. La personne, elle a ces deux voix-là. C'est juste qu'il y en a une qui parle plus forte que l'autre. Alors, nous, notre travail, c'est de travailler la voix qui veut vivre, la voix qui veut continuer, qui voit que, tu sais, il y a moyen de s'en sortir. Elle sait juste plus comment le faire.
Est-ce que, Madeleine, parmi ces mythes-là, il y aurait aussi le fait que seuls les gens qui sont seuls, pas entourés, commettent le suicide et passent à l'acte? Ça aussi, c'est un mythe? Ou...
Encore une fois, c'est un autre mythe. Le suicide, ça ne discrimine pas. Hein? Mm-hmm. Ça peut affecter n'importe qui, peu importe notre niveau de scolarité, notre niveau socio-économique. Même des personnes qui ont un bel entourage, qui sont, tu sais, qui ont des amis proches avec lesquels ils ont des contacts, qui ont une bonne famille autour d'eux, même eux aussi, ils peuvent avoir des suicidaires et faire un passage à l'acte aussi. Donc vraiment, ça peut affecter n'importe qui. À force de vivre difficulté après difficulté après difficulté, n'importe qui peut arriver au point et dire « ben voyons donc, c'est quoi qui me reste? »
J'imagine aussi, d'un point de vue familial, j'en ai entendu des histoires, parce que c'est pas des gens qui n'ont pas de famille, c'est pas des gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas de gang d'amis et tout ça. Si on peut venir à être inquiet pour quelqu'un d'un entourage proche, mais qui vraiment n'est pas vocal, dit pas rien, dit pas comment il se sent, est-ce que tu aurais des trucs? Est-ce que tu aurais un petit... Ah, mais c'est peut-être ces petites choses-là qu'il faudrait peut-être spotter plus davantage que des paroles, parce que des fois, on dirait que c'est pas dans les paroles tant que ça. C'est peut-être plus un changement de comportement qu'il faudrait observer, je sais pas.
Mais exactement, quand quelqu'un va pas bien, nous, on les connaît, les gens, hein? On le sait tout de suite quand ils sont off, quand ils sont plus eux-mêmes, puis c'est là, justement, qu'il faut repérer les signes et qu'il faut être un petit peu plus proactif. « Hey, j'ai remarqué que t'es plus silencieux que d'habitude, j'ai remarqué que t'as l'air un peu plus fatigué. Hey, me semble que tu bois un peu plus que d'habitude. C'est de remarquer ces micro-changements-là au quotidien puis de voir, la personne n'est plus tout à fait comme elle l'était d'habitude et de commencer à remarquer ça. Peut-être qu'elle parle moins, peut-être qu'elle commence à changer son discours aussi, peut-être qu'elle fait plus de blagues aussi à propos du fait de « Ah, oh, ben tu sais, on sait bien, ce serait tellement plus facile si je serais partie. Oh, vous n'aurez plus besoin de moi, plus besoin de... » Tu sais, des fois, c'est des petites formulations aussi. Oui, ça peut être dit plus de manière verbale, mais il y a aussi des petits signes avant-coureurs dans les comportements, voir qu'est-ce qui change chez la personne, qu'est-ce qui est plus tout à fait elle, elle se retire un peu plus, elle fait des choses qu'elle faisait pas avant, elle commence à peut-être donner des biens des effets personnels, commence plus à faire des dons, peut-être faire plus de préparatifs aussi, au cas où qu'elle ferait un départ. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on peut commencer à remarquer.
Un isolement, j'imagine aussi.
Ça aussi, les personnes pourraient peut-être être un peu plus isolées, plus enfermer. Ça ressemble beaucoup à des symptômes de dépression. Hein. On veut moins sortir, on a moins le goût de faire des choses, on reste plus souvent à la maison, on reste tout seul avec nos pensées, on parle moins aux gens proches de nous. C'est toutes des petites choses comme ça qui s'accumulent.
Quand on continue de parler justement, Madeleine, de mythes, mm-hmm. est-ce que c'est vrai, si j'appelle Suicide Action Montréal, j'ai besoin de vous parler, j'ai des idées noires, mm-hmm. vous allez m'envoyer tout de suite à l'hôpital?
Non, du tout. Du tout.
Mythe.
Un autre mythe. Non, vraiment, quand on appelle à Suicide Action Montréal, c'est pour effectivement parler à quelqu'un, avoir un espace sans jugement, un espace qui est vraiment confidentiel, où on peut dire tout ce qui nous passe par la tête, parler de la souffrance qu'on est en train de vivre. Et tout ce qu'on va avoir au bout de la ligne, c'est quelqu'un qui est là pour écouter, pour recevoir tout ça et vraiment ensuite regarder c'est quoi les besoins spécifiques de la personne, puis ensuite on va faire un plan de match personnalisé. Mm-hmm. On va voir qu'est-ce qui toi pourrait t'aider pour t'en sortir, c'est quoi les petites pistes de solutions qu'on peut identifier ensemble, encore une fois le plus petit pas possible, quelle serait la meilleure ressource pour toi, qu'est-ce que toi t'as de besoin. On y va vraiment au cas par cas parce qu'il n'y a pas personne qui vit sa souffrance de la même façon, puis il n'y a pas personne qui va s'en sortir de la même façon aussi.
Et c'est pas quelqu'un qui au bout du fil, comme on disait tantôt, ben voyons, on va voir. Non, c'est vraiment l'écoute,
oui.
Puis c'est l'approche aussi, j'ai
Exactement.
L'impression, qui est importante.
Exactement, c'est l'écoute empathique, c'est d'être là pour la personne, d'être une présence. On ne va pas envoyer systématiquement la personne
c'est
à
ça.
L'hôpital parce qu'elle appelle puis elle dit qu'elle a des idées suicidaires. Quand on en vient à un point où il faut faire appel au 911, c'est parce qu'il y a un danger grave et imminent pour la personne. C'est là que ça se passe. Là. La personne n'est plus capable d'assurer sa sécurité.
C'est ça.
C'est un danger de la laisser tout seule ou peut-être qu'elle est un danger pour autrui aussi. Alors, c'est seulement quand il y a un danger grave et imminent qu'à ce moment-là, on va appeler le 911. Mais sinon, on va pas le faire de manière systématique. On va vraiment prendre le temps de s'asseoir avec la personne, voir qu'est-ce qui se passe, l'écouter puis d'identifier des petites pistes de solutions avec elle et de voir quelles seraient peut-être les professionnels et les organismes qui seraient les mieux placés pour aider cette personne-là dans ses difficultés.
Parce que pour les gens, justement, qui nous écoutent, je pense que parfois, c'est un gros step de prendre mm-hmm. l'appel, la peine d'appeler
oui.
Pour parler, puis justement, de vider le cœur
oui.
de tout ça. Puis, à la radio, c'est déjà arrivé que quelqu'un m'écrive qui n'avait aucune idée quoi faire, puis mm-hmm. qui avait des idées vraiment noires, et j'ai référé, et ensuite m'avait écrit dire merci, parce que mm-hmm. ça l'a vraiment tout changé. Je ne pensais pas que c'était ça.
Exactement. Il faut vraiment faire quelque chose de personnalisé pour la personne. On va identifier les besoins, puis voir qu'est-ce qui serait un bon fit pour toi, qu'est-ce qui serait les meilleures solutions possibles pour toi, puis c'est nous qui avons ce travail-là, c'est pas la personne.
Nous, en tant que monsieur, madame, tout le monde, mm-hmm. Société, quand on pense à la prévention du suicide, qu'est-ce qu'on devrait faire autant dans le day-to-day que dans la vie en général pour mieux œuvrer, disons, dans la prévention du suicide? Aurais-tu des trucs?
Bien, tout d'abord, ce que je proposerais, c'est qu'on pratique un petit peu plus de bienveillance au quotidien. Hein. T'as peut-être un petit peu débarquer du téléphone et regarder autour de nous, voir, hey, comment est-ce qu'elle va telle personne, de faire un petit sourire, de demander à quelqu'un carrément comment est-ce que tu vas mm-hmm. et de prendre le temps, si jamais la personne a dit, hey, sais-tu, je file pas trop, de prendre un petit moment dans sa journée juste pour l'écouter.
Est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait peut-être inculquer aux plus jeunes, de faire attention de, bien, gars, c'est pas parce qu'elle a mis le like sur sa photo qu'elle va bien. Et que c'est le parfait bonheur. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer d'apprendre plus jeune aux ados?
Oui, tout à fait. En fait, j'adore l'exemple que tu viens de ouais. donner parce que je trouve que c'est quelque chose d'autre qu'il faut qu'on fasse comme société, c'est d'arrêter d'axer sur la performance
ouais.
et sur cette image idéalisée que tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, le terrain est donc bien vert. Non, ça, c'est ce que l'image qu'on va projeter. Mais en arrière de tout ça, il y a tout le temps quelqu'un qui va pas bien. Puis on le voit souvent, les influenceurs sur Instagram et ainsi de suite, ils vont dire « Écoute, j'ai pris cette photo-là, ça a l'air parfait dans ma vie, mais derrière tout ça, j'ai peut-être pleuré 5 minutes mm-hmm. avant ou j'étais peut-être en grosse dépression. »
J'ai pris 40 photos,
exact.
Puis j'ai regardé une par une.
Exactement.
Puis, ben oui, certainement.
Exactement. Puis on met tellement l'accès sur « Il faut bien performer, il faut bien réussir, il faut bien paraître. » qu'on ne prend pas le temps de regarder. Oui, OK, ça nous arrive tous de tomber. Ça nous arrive Bien tous oui. de mal aller. On a des beaux moments, puis on en a des moins beaux aussi. Et si on mettait plus de l'avant, qu'est-ce qu'on fait pour se remonter quand on vit quelque chose de difficile? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui serait tellement plus intéressant de voir, « Hey, toi aussi, t'as passé à travers une passe difficile. OK, t'as fait ça, t'as trouvé ça aidant. Bien, moi aussi, je vais essayer ça. Puis si ça marche pas, c'est correct. Je vais essayer les trucs de quelqu'un d'autre, puis je vais finir par trouver quelque chose qui fonctionne pour moi, qui est un bon fit pour moi. Mais c'est ça, on se concentre tellement sur le bien paraître, sur la performance, que je trouve qu'on enlève un petit peu de ce message-là, de dire c'est correct d'aller mal, c'est correct d'avoir une journée où on va moins bien, mais voici quelques trucs qu'on peut faire pour s'en sortir.
Comme tu le vis, comme tu es en plein dedans à Suicide Action Montréal, parlant de mythes, moi, ayant eu affaire à appeler, mais pas pour des idées noires, parce que quelqu'un de mon entourage s'est enlevé la vie, est-ce que ça peut être un mythe de dire « Mais non, mais pourquoi j'appellerai, j'en ai pas de besoin? » Moi, j'en ai pas de besoin, moi, ça va, c'est correct, là. Mais moi personnellement, ça a tout changé parce que vous aviez des pistes différentes que ce que mon entourage avait. Mais quelqu'un qui, justement, viendrait de perdre un proche, quelqu'un, un ami, membre de sa famille, est-ce que ça peut être un mythe de dire « Ben non, moi, j'en ai pas besoin? »
Ben, encore une fois, ça dépend de chaque personne, ça dépend de qu'est-ce qui se passe, parce que personne ne va vivre, disons, un suicide, il n'y a personne qui va le vivre de la même façon. Puis il y a plusieurs étapes aussi dans un deuil, puis il n'y a pas tout le monde qui va vivre les mêmes étapes, il n'y a pas tout le monde qui va vivre toutes les étapes non plus. Donc oui, des fois, il peut y avoir une période où on est un peu dans le choc, on est dans le déni, puis ensuite, il y a d'autres émotions qui s'en suivent, puis même là, c'est pas toujours dans cet ordre-là. Ouais. C'est là où c'est pas évident. Fait que ça se peut que dans ce moment-là, la personne, elle se dise « Non, j'en ai pas besoin », parce qu'il n'est peut-être pas rendu là dans sa tête, puis c'est correct aussi. Mais même là, tu peux quand même téléphoner, puis même si tu ne penses pas, juste de dire « Hey, je viens de vivre telle chose difficile, je ne pense pas avoir besoin d'aide, mais j'aimerais juste pouvoir en parler avec quelqu'un. » Puis au moins de savoir qu'il y a un endroit calme et rassurant où tu peux faire cet appel-là, où tu peux en parler sans jugement. Des fois, c'est très rassurant de savoir. Et puis, éventuellement, peut-être qu'en en parlant, ça va évoluer. Puis finalement, on va poser une question ou on va faire susciter une réflexion. Puis finalement, peut-être que ça va cheminer. Mais on offre des services à tous les niveaux. Parce que le suicide, ça a un impact sur plusieurs personnes. Mm-hmm. C'est ça souvent aussi que les personnes suicidaires réalisent pas. Ils se disent « Ah, ben en m'enlevant la vie, ben je vais rendre la vie tellement plus simple pour tout le monde autour de moi. » Non, au contraire. C'est un petit peu comme quand on lance une roche dans l'eau, puis ça fait de plus en plus de vagues.
Ouais.
C'est la même chose avec un suicide. Sur le coup, on réalise pas à quel point ce que notre présence, notre vie a un impact sur la vie de tellement d'autres personnes. On a toujours l'impression que ça va pas affecter personne d'autre, mais au contraire, ça va affecter les professeurs, ça va affecter les amis, ça va affecter les collègues de travail, ça va affecter la famille. Ça va vraiment avoir plus d'impact qu'on pense.
Oui, puis ça affecte longtemps aussi. Exact. Puis je sais que quand on est dans une situation de détresse, on a des idées noires comme t'es. J'aime beaucoup ton image de la boîte, là. C'est un peu ça. C'est comme ça que je me l'imagine. Mais justement, ces gens-là qui sont dans une situation tellement de détresse ne voient pas qu'il y a autant de gens autour d'eux qui sont prêts, même à des petites choses pour les aider. Fait que je trouve que l'image est très forte de la boîte, là. C'est vraiment intéressant.
Ben oui, tout à fait, parce que c'est ça, les gens, ils voient pas de l'extérieur, ils voient juste la boîte. Fait que nous, c'est ça notre rôle de dire, ben non, au contraire, si on est dans la pièce ici, moi, mon rôle, si toi, t'avais la boîte, ce serait de dire, hey, non, sais-tu, il y a une fenêtre, il y a une porte, il y a une chaise, il y a une table, il y a plein de choses autour de toi.
Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'on aimerait peut-être dire, OK, mais non, ça, par rapport au suicide, ça, c'est un mythe?
Le simple fait, si j'en parle à quelqu'un, je vais leur semer l'idée dans la tête, puis ils vont tout de suite aller s'enlever.
C'est vrai, je peux pas en parler parce que ça va leur donner des idées.
Exactement.
Mythe?
Oui, tout à fait. Tout à fait, tu as entièrement raison.
Voilà. Parce que c'est souvent je l'ai entendu, ben non, mais je peux pas aborder le sujet, je peux pas lancer la conversation, parce que si jamais... il est dans un bas-fond, ça va lui donner un spark. Puis...
Le fait de lui demander, c'est pas nécessairement de lui suggérer l'idée. Au contraire, c'est de lui ouvrir la porte pour en parler. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est ça va être quoi la pire chose qui va arriver si tu demandes à quelqu'un « Hey, est-ce que tu penses au suicide? » Soit qu'elle va répondre « Non, j'y pense pas du tout, mais merci de me poser la question. » Ou au contraire, elle va te répondre « Ben oui, en effet, je commence à avoir des idées noires, ça me préoccupe. Merci de m'en parler. Enfin, je suis plus obligée de porter ça tout seul. » Et là, tout de suite, on va pouvoir commencer quelque chose de magnifique. On va pouvoir aider cette personne-là, lui dire qu'elle n'est plus seule, briser son isolement, puis l'accompagner vers les ressources appropriées. Fait que la pire chose qui va arriver, c'est que la personne va dire « Oui, puis on va pouvoir lui donner l'aide dont elle a besoin. »
Et des fois, je sais que ça peut arriver, quelqu'un qui, justement, c'est une dépression et tout ça, les idées noires, faire comme, OK, ben là, je veux en finir. Et c'est déjà arrivé, je fais comme, OK, pour vrai, ça, c'est, OK, là, faut que tu me parles, mm-hmm, tu sais, explique-moi. Puis après ça, ça en vient à une discussion de, OK, j'ai peut-être, ça a dépassé mm-hmm. ce que je pensais, c'est pas ça que je voulais dire. Fait que c'est vraiment de dire non, c'est vraiment pas là pour implanter une idée, mm-hmm. c'est plus pour ouvrir la discussion, ouais. de dire, c'est, à la limite, moi, je pense que ça peut sauver
oui.
La personne. Sauver une vie, là, au oui. lieu de garder ça en dedans. Là.
Mais je peux comprendre, par contre, il y a une peur puis une réticence à bien poser oui. cette question-là, parce qu'on se dit tout le temps, oui, mais je ne suis pas équipée pour le gérer. Qu'est-ce que je vais faire si on me parle des idées suicidaires? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce mm-hmm. que je vais répondre? Oh mon Dieu, je vais être obligée de faire de quoi avec mm-hmm. ça? Encore une fois, non, tu as le droit de dire, écoute, je peux t'écouter, mais par contre, je pense que ce serait préférable que tu ailles voir un professionnel. Tu n'es pas oui. obligée de porter ça sur tes épaules. Un exemple que j'ai toujours pour ça, c'est un ami qui a un problème avec son auto et qui vient te voir et dit, écoute, mon auto est pété. Mm-hmm. Est-ce que ton premier réflexe, ça va être de dire, OK, pas de problème, je vais me retrousser les manches puis je vais aller arranger ton auto. Mm-hmm. Non, tu vas dire, écoute, je connais un vraiment bon garagiste, je vais lui donner ton numéro, voilà, ils vont bien s'occuper de toi, ils vont t'aider à réparer ton auto.
Ah, c'est bon.
C'est la même chose avec la prévention du suicide. Quand quelqu'un en parle, t'es pas obligé de faire de quoi avec ça, t'as juste besoin d'écouter la personne puis de dire, hey, sais-tu, je connais tel numéro de téléphone, si on l'appelait ensemble, et ensuite on va laisser ceux qui sont formés pour le faire, qui connaissent les outils, de prendre la relève.
Toujours plus facile avec un auto qu'avec un humain. Hein. C'est fou pareil, hein, mais tu sais. Je trouve que l'analogie est vraiment, ouais. Est vraiment là, est vraiment bonne.
Bien, il faut se donner le droit de dire « je suis pas expert en tout, puis c'est correct qu'il y a du monde pour ça ». Hein, quand on a des questions d'ordre légal, on va voir un avocat. Quand on a des questions d'ordre médical, on va voir un médecin. Puis quand on est préoccupé par la problématique du suicide, bien, on va voir des intervenants qui sont formés dans le domaine.
Si, selon toi, on était dans un monde là, de pouliche là, où tout va bien, là, tout est possible, est-ce que en tant que société, selon toi, il nous manque quelque chose qu'on faudrait mettre en place pour faire un meilleur travail de prévention du suicide?
Bien, tout d'abord, comme société, je trouve vraiment que quand quelqu'un fait un appel à l'aide, même s'il ne mentionne pas nécessairement qu'il y a des idées suicidaires, si quelqu'un en arrive à un point où il dit « là, je ne peux plus continuer comme ça, ça ne marche plus, j'ai besoin d'avoir un coup de main, j'ai besoin qu'on m'écoute, mm-hmm. qu'on m'entende », qu'on offre l'aide immédiatement. Je trouve ça dommage de voir que des gens trouvent finalement tout leur petit courage pour faire une demande à l'aide. Et après tout, tout ce qu'on fait, c'est les mettre sur une liste de rappel. Mm-hmm. Quand quelqu'un pose ce geste-là, ose lever la main haut et fort puis dire « ça va pas, j'ai besoin d'aide », nous, notre réflexe comme société, ça serait de dire « parfait, on est là pour toi, on t'aide immédiatement. » Exactement. On va pas te faire attendre, c'est maintenant que ça se passe. Si c'est maintenant que tu le demandes, c'est parce que c'est maintenant que tu en as besoin. Fait que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin de faire à ce niveau-là. Offrir plus d'aide, plus de soutien aussi pour la santé mentale, le soutien psychologique. Puis une fois qu'on offre ce soutien-là, qu'il demeure présent le temps que la personne en ait besoin.
C'est pas juste une fois, là. C'est exactement. Juste, on a besoin d'un suivi.
Exactement, puis que ça prenne le temps qu'il faut.
Ouais.
Il y en a qui sont capables, en l'espace de quelques rencontres, de se remonter, puis de retrouver le désir de vivre, et ainsi de suite. Puis il y en a d'autres, ça leur prend quelques semaines, d'autres quelques mois, et d'autres quelques années. Puis c'est correct. À chacun son rythme. Mais de là, et d'arriver puis de dire à quelqu'un, excuse-moi, mais on a 4 rencontres pour régler tous tes problèmes puis t'aider à retrouver l'espoir de vivre. Et demandez-moi pas de faire des miracles parce que je suis pas capable d'en faire.
Il y a quelque chose qui vient de me popper. Quand on remarque, justement, t'as dit, c'est sûr, toutes les personnes sont différentes. Donc, certaines ouais. personnes, ça va prendre un bon bout avant de remonter la pente. Mais pour certaines personnes, ça peut arriver, ils vont dire leurs intentions.
Ouais.
Et ça va aller très, très vite, qu'ils vont aller très, très bien. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Le risque est passé, merci, c'est beau, tout est beau. La veille, ça allait pas, mais le lendemain, tout va bien.
Encore une fois, selon moi, c'est un mythe.
Okay.
C'est pas parce que tout d'un coup, la personne, elle va mieux que là, oh, le risque est complètement écarté. Au contraire, il y a souvent beaucoup de personnes qui, après une tentative de suicide, vont peut-être en faire une autre ou vont faire un autre passage à l'acte. Des fois, ils vont juste créer l'image que tout va bien parce que dans leur tête, ça vient d'être confirmé. Ah, OK, là, maintenant, je sais quoi faire pour peut-être n'en faire une autre fois ou j'ai une autre façon de m'y prendre. Donc, il faut toujours demeurer vigilant. Si la personne a continué à en parler, c'est qu'il y a quelque chose là. Si la personne, tout d'un coup, elle va mieux du jour au lendemain, il y a quelque chose là encore.
Okay.
On ne se remonte pas d'une tentative de suicide en l'espace de quelques minutes ou quelques heures. Ce n'est pas un plat minute au micro-ondes.
Non. Puis j'imagine que même, je parle en semaine puis en année, là, en
exact.
Année.
La personne, elle a besoin de soutien, elle vient de vivre quelque chose de difficile, elle était à une impasse très importante, elle était dans la grande souffrance. il faut qu'elle ait du soutien pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir surmonter, pour pas qu'elle ait cette vulnérabilité-là de retourner dans ce pattern-là par la suite ou de ravoir ces idées-là à nouveau. Donc, pour moi, je dirais, faut être vigilant. Puis c'est chaque personne, après avoir vécu une tentative de suicide, il faut vraiment aller vers eux puis dire, hey, qu'est-ce que tu as besoin? Je suis là pour toi, offrir du soutien puis s'assurer qu'ils sont entourés par des professionnels, par des intervenants ou qu'il y ait accès.
En terminant, Madeleine, toi qui es directrice clinique à Suicide Action Montréal, si tu avais un conseil à partager à ceux et celles, l'entourage des personnes qui ont des idées noires, les gens qui ont des pensées suicidaires, ce serait lequel?
Bien, déjà, juste le fait d'être là pour la personne, mm-hmm. c'est déjà un grand pas, le fait d'être disponible, de lui donner du temps, de l'écouter. Je pense que déjà, il y a un gros plus... De dire que c'est correct de donner une présence, d'offrir une oreille pour écouter la personne. Cela étant dit, je trouve aussi que c'est important pour les proches de savoir qu'il ne faut pas se mettre non plus une pression sur les épaules, de mm-hmm. se dire « Hey, je suis responsable pour les actes de cette personne suicidaire-là, 24/7, je suis responsable de son mieux-être, de m'assurer qu'elle s'en sort. » Non, c'est correct de s'enlever cette pression-là des épaules puis de dire « Ça, ça m'appartient, ça, je me sens à l'aise, ça va me faire plaisir de te donner un coup de main avec ça. Je vais venir te porter des petits repas. Si tu as besoin que je te conduise jusqu'à un rendez-vous, je peux le faire. Si tu veux que je sois à côté de toi quand tu fais ton appel à Suicide Action Montréal, je vais être là pour mm-hmm. toi. Si tu veux que je te tienne la main, si tu veux qu'on reste assis ensemble en silence, c'est correct. Ça me fait plaisir d'être une présence pour toi. Mais aussi de dire ce qui ne m'appartient pas et de dire non, ça, je ne me sens pas à l'aise de le faire. Ou ça, je trouve vraiment que ça devrait être orienté vers un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît bien, qui a la formation puis qui a les outils pour bien t'accompagner. Donc vraiment de dire aux gens, enlevez-vous cette pression-là des épaules. Dites oui à ce que vous êtes à l'aise mm-hmm. de faire et d'être capable aussi de dire non, là, je mets ma limite là-dessus. Ça, c'est un petit peu trop pour moi. C'est un petit peu too much. Mais on va s'assurer d'aller chercher les bonnes personnes pour te donner un coup de main à ce niveau-là. Puis si je peux me permettre, je trouve que dans la société, il faut vraiment qu'on arrête que ça soit un tabou de parler de suicide, qu'on en parle. C'est correct d'aller pas bien, c'est correct d'avoir ces idées noires-là oui. qui nous viennent à l'occasion. Et puis, il faut le reconnaître aussi que ça peut arriver à n'importe qui, incluant des professionnels également. Parce que je trouve ça tellement dommage quand on dit à des professionnels, « Ah ben oui, mais toi, t'es allé à l'école pour ça, fait que tu sais comment gérer ça, tu sais comment composer avec. » Non, tout le monde peut être affecté au même type. C'est pas parce que t'es spécialisé dans le domaine que t'es plus fort ou que tu vas mieux t'en sortir que quelqu'un d'autres, ça peut t'affecter au même titre.
Puis j'ai l'impression que justement, comme ce qu'on est en train de faire là, plus on va en parler, mm-hmm. puis plus parce qu'on a, en tout cas moi personnellement, encore tendance à dire « Oui, j'ai perdu un ami, mm-hmm. OK, que c'est... Ben, c'est enlevé la vie, là. Mm-hmm. » Tu sais, ben, il s'est suicidé, puis c'est le vrai mot, puis il faut le dire, parce que sinon, j'ai l'impression que si on continue à mettre de la ouate autour ouais. de ça, je sais pas, c'est comme si le travail n'était pas fait correctement en bout de ligne,
Exactement. Faut en parler. Quelque chose que je dis toujours à mes clients, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Fait que c'est un petit peu comme, tu sais, je te regarde, tu as des tatouages mm-hmm. sur toi, mais si à chaque fois que tu osais pas parler de ce que tu vis ou parler du suicide ou parler de tes idées, à chaque fois, il y avait un nouveau tatouage qui se rajoutait sur ton corps.
OK.
Ben, c'est parce qu'à un certain point, on manque de peau, hein?
Ben oui.
Mais à chaque fois, par contre, qu'on en parle, c'est comme si on enlevait ce tatouage-là.
Wow! On dit, OK, je pense pas qu'on puisse finir sur une plus belle citation. Il y a Pinterest qu'on va mettre dans la couverture. C'est vraiment, j'aime beaucoup l'image que ça mm-hmm. donne. Je pense que mm-hmm. ça va...
Fait comme société, il faut vraiment qu'on se positionne. Il faut se dire, est-ce qu'on veut avoir du monde qui ont tous ces tatouages-là de souffrance, oui. de tatouer sur le corps, ou au contraire, on leur dit non, on va en parler parce qu'on veut que vous allez bien, puis on veut que les seuls tatouages sur votre peau, ce soit des tatouages de bien-être, de joie, et ainsi de suite.
Juste des arcs-en-ciel, des dauphins. Hey, pour vrai, merci beaucoup, Madeleine. C'était vraiment intéressant. Puis on va continuer d'en parler. On va utiliser les vrais mots. Puis on va justement continuer d'investiguer tout ça. Ça a été super le fun de jaser avec toi. Merci.
Bien, carrément. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!